Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir dans les salons de la librairie Mola Jean Descartes pour son ouvrage « La saga des Habsbourg, du Saint-Empire à l'Union européenne », publié chez Perrin. Comme d'habitude, cette conférence peut être enregistrée, réécoutée, grâce à vos balado-diffuseurs, au travers du site mola.com. Jean Descartes est grand reporter et historien, et il est certainement, à mes yeux, l'un des meilleurs connaisseurs des dynasties d'Europe. Il me pardonnera de ne pas citer ici la liste de tous les ouvrages qu'il a publiés, mais dans le même esprit, il nous avait livré en son temps la saga des Romanov. Résumer ici en 45 minutes cet important ouvrage sur les Habsbourg, 7 siècles de règne, est impossible. C'est une gageure, donc il nous faudra faire des choix aussi arbitraires que terribles. Mais commençons par le début, alors en Alsace et en Argovie.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très heureux de revenir une seconde à Bordeaux parce que j'y ai travaillé quand j'ai préparé mon livre sur Haussmann, futur rénovateur de Paris sous Napoléon III, qui fut préfet de la Gironde. Et j'avais même consacré avec FR3 à l'époque un film à Cestas, de la propriété du baron Haussmann, où il élevait un vin de Grave. Voilà. Ceci pour vous dire que bien qu'arrivant de Paris, je sais ce qui se passe au sud de la Loire. Et je vais vous dire tout de suite, oui, ça commence très loin d'ici, dans le canton d'Argovie, c'est-à-dire un des cantons suisses germaniques entre Zurich et Bâle. Vous avez un petit château sur un piton. Il n'est pas impressionnant, ce château, mais il est remarquablement placé à un endroit où les légions romaines avaient leur quartier général, et les Romains, qui étaient des bons ingénieurs des ponts et chaussées, avaient bien choisi leur endroit. Et voilà que il se passe un événement étonnant. En 1273, un membre de la famille de Habsbourg, Francis, pour résumer, à la surprise générale, c'est un homme petit. Vous savez, il y a des hommes petits qui sont arrivés à faire de grandes choses. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça arrive. Je parle de Staline, 1m53, et de Bonaparte, bien sûr. Et il est élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Qu'est-ce que c'est que l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qu'est-ce que c'est que cet empire? Eh bien, dans le fond, il y a toujours eu, depuis les Romains, l'idée d'un sentiment d'appartenance, je dirais, à une même communauté d'intérêts, de traditions, de civilisations. Après l'Empire romain, et je résume, nous avons l'Empire de Charlemagne, couronné, vous le savez, le jour de Noël 1800 à Rome. Et puis cet empire est dilué, partagé, il s'effondre. Et en l'an 962, un prince de Germanie, pour simplifier, Othon, décide de constituer un nouvel ensemble. Ça peut paraître paradoxal, mais l'Union européenne aujourd'hui, quoi qu'elle en dise, s'inspire, avec moins de spiritualité, d'intelligence et de génie, je vous l'accorde, surtout quand on propose de faire du vin rosé en mélangeant le rouge et le blanc, ce qui a dû plaire ici beaucoup, je présume. Ça s'inspire de la même idée, c'est-à-dire réunir des peuples, puisqu'il n'y avait pas d'État. Et le Saint-Empire romain germanique n'est pas une monarchie héréditaire, c'est une monarchie élective qui se passe en deux temps. L'empereur est élu par la diète. Diète est un mot qui vient du latin dies, c'est-à-dire le jour de l'assemblée, où les princes, les représentants des villes, des petits États de l'époque, des petites principautés, nous dirons, se réunissent. Ils vont élire quelqu'un. Et pour quelques cas, et ce sera le cas d'un Habsbourg, celui-ci sera aussi couronné par le pape à Rome. Les Habsbourg sont les seuls, d'ailleurs, à avoir eu cette double onction, je dirais, laïque et sacrée. Cet empereur, élu donc, a le pas sur les autres souverains, les autres monarques, mais il essaye de faire vivre ensemble une sorte d'agglomérat, je dirais c'est presque un syndic de copropriété avec tous les charmes de la copropriété, qui se passe principalement à l'époque dans les pays germaniques au sens large. Alors attention, parce qu'on entend par germanique et allemand, ce sont des pays où on parle allemand ou des dialectes ou des patois allemands. Il peut y avoir des Allemands du point de vue linguistique dans l'actuelle Autriche, mais aussi dans l'actuelle Pologne, dans l'actuelle République tchèque, etc. Je l'explique parce que les Français, y compris Napoléon, ont fait beaucoup d'erreurs à ce sujet. Alors, cet ensemble, unique au monde, dont je crois en France le seul homme qui ait compris son importance historique actuellement est Jean-Pierre Chevènement, mais c'est un homme de Belfort, donc il est un carrefour historique et géographique, il a pu comprendre. Cet ensemble unique au monde va durer jusqu'à 1806, quand Napoléon, qui ne supporte pas qu'il y ait un autre empire, va, avec la victoire de Sterlitz, faire diluer cet ensemble avec la bonne volonté de l'empereur Habsbourg, qui, il ne le sait pas encore, est son futur beau-père, c'est-à-dire le père de Marie-Louise. Et Napoléon va remplacer cet ensemble par l'Empire français, lequel, après son effondrement, aura en face l'Empire d'Autriche. On ne peut pas parler, je tire votre attention, d'Empire d'Autriche avant 1806. On peut parler des états de la maison de Habsbourg. Et pour la petite histoire, je me bats depuis des années avec la ville de Paris, toutes tendances politiques confondues, pour qu'on explique enfin que les plaques posées avenue Mozart sont idiotes en mettant compositeur autrichien. Mozart n'était pas autrichien, puisque l'Autriche n'existait pas. Il était soit germanique, soit impérial, puisqu'il est né à Salzbourg et que Salzbourg n'est incorporé à l'Empire d'Autriche qu'en 1816. Mais enfin, ça, c'est un vaste débat. Et puis, ensuite, en 1867, François-Joseph, personnage que j'ai beaucoup étudié, devient roi de Hongrie, et donc nous avons l'Empire austro-hongrois jusqu'à 1918, et avec en face, évidemment, l'Empire allemand depuis le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces de Versailles, après la désastreuse guerre de 1870. Donc voilà ce que ça représente. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça est parti de ce petit donjon de Suisse. Et j'étais à Zurich il y a quelques jours pour une prestation comparable avec la radio et la télévision suisse et des gens de l'Alliance française. Je disais, c'est tout de même étonnant parce qu'on a dans ce coin du canton d'Argovie, vous savez que le canton est l'autorité politique réelle dans la Suisse actuelle, le canton c'est vraiment ce qui est important, la police cantonale est plus importante que la police fédérale, eh bien nous avons la naissance de deux phénomènes, la naissance des Habsbourg et la naissance de l'identité suisse contre les Habsbourg, qui vont devenir des ennemis héréditaires, pour des histoires de voisinage. Avec
parce que ça se passe mal.
Mais ça se passe très mal, parce qu'il y a le contrôle de la route du sel sur le Saint-Gothard, et parce que les cantons suisses, je vous renvoie à Guillaume Tell et au serment des Rutli, voilà, vont petit à petit se dresser contre ces Habsbourg qui n'ont rien d'Helvète, mais la notion d'Helvète à l'époque, elle est très très floue. Mais enfin, c'est intéressant, on a deux phénomènes, et c'est amusant de voir aujourd'hui, je le montre d'ailleurs dans mon livre, le château de Habsbourg, c'est-à-dire l'ancien un château des Autours, des Éperviers, c'est assez joli comme image, sur lequel flotte le drapeau suisse, qui est parce que le canton d'Argovie est propriétaire du château depuis 1805-1806. Donc on a la naissance d'une des plus prodigieuses aventures européennes par une dynastie qui va s'étendre au-delà des mers, puisque les Habsbourg vont régner nominalement sur la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire sur le Mexique, sur le Pérou, vous le savez, du temps de Charles Quint. Et en même temps, représenter un ensemble politique où la géographie est particulièrement intéressante. Napoléon et Bismarck vont dire à peu près la même chose en disant « Messieurs, en histoire, c'est la géographie qui compte ». Et Bismarck ajoutera un peu plus tard « S'il y a une chose qui ne change jamais en histoire, c'est la géographie ». Bon. Imaginez, nous sommes là au temps de Charles Quint, alors après les premiers Habsbourg, un territoire dont la diversité regroupe le plat pays, les Flandres, on est du côté de Bruges et de Gand. Pourquoi ? Parce que par le mariage de la fille unique de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne, avec Maximilien de Habsbourg, la maison de Bourgogne s'est associée aux possessions des Habsbourg et c'est devenu un état fantastique aux grandes dames de Louis XI, le roi de France, qui était furieux.
Bon. Ils ont toujours fait des mariages judicieux.
Alors les Habsbourg ont compris très rapidement qu'ils n'étaient pas doués pour la guerre. Ça s'est vu jusqu'à 1918, mais ils étaient plus doués pour les mariages. Et le premier Habsbourg a un capital formidable, il a 6 filles. Alors, ce n'était pas tant. Encore faut-il les marier, bien entendu. Et donc, la devise des Habsbourg sera « Pendant que les autres se font la guerre, toi, tu peux convoler en juste noce. » Et ça va être appliqué d'une façon assez étonnante. La diversité géographique fait que les souverains vont passer ensuite par le temps descendant du nord au sud vers le territoire rhénan, je dirais les bords du Rhin, un peu les bords du Danube, l'équivalent de la Bohème, l'équivalent de la République tchèque actuelle, passé par l'Autriche qui, au sens large, à l'époque, comprend des pays de montagne, de forêt, etc., descendent par le nord de l'actuelle Italie, passé par la Provence qui ne fait pas partie du royaume de France, et arriver jusqu'au désert de Castille, au plateau madrilène, ça fait une diversité de géographie, de climat, de tempérament, de langue, qui me paraît unique au monde. Les Romains, bien entendu, avaient un empire fantastique, mais il n'y avait pas cette spiritualité, sauf à l'arrivée, évidemment, de Constantin, tandis que là, il y a un point commun chez tous ces peuples gouvernés à distance, où il faut un mois, deux mois, trois mois pour aller d'un point à l'autre, c'est le christianisme. Le christianisme, avec sa plus grande crise, bien sûr, le grand schisme de la Luther et de la Réforme. Et je vous dirais tout de suite que ce qui est intéressant dans le cas de Charles Quint, c'est que cet homme prodigieux, dont les terres ne connaissent jamais l'obscurité, a commis deux très grandes fautes. Et les gens dans l'histoire sont intéressants par leurs fautes aussi. La première, c'est qu'il s'est cru un souverain du Moyen-Âge alors qu'il était au temps moderne et qu'il n'a pas compris qu'il avait face à lui une idée française que l'on doit à François Ier, l'État-nation. Je m'empresse de vous dire qu'aujourd'hui, l'Europe de Bruxelles veut supprimer l'État-nation et nous réduire à l'État de province. Deuxième erreur, Charles Quint, Carlos Quinto, qui était né à Gand, qui parlait très mal espagnol et qui va finir comme étant le plus espagnolisant, je dirais.
Qui parle français.
Des Habsbourg et qui parle français.
Qui parle français.
Bien sûr. Il parle difficilement parce qu'il a le menton prognate, la libe des Habsbourg. Il a l'air toujours hébété de ne pas comprendre ce qu'on lui dit, mais il a des problèmes de végétation. Et quand il verra François Ier, qui sera son rival et son beau-frère, la discussion sera quelquefois laborieuse parce que le roi de France s'exprimait en bon français. N'est-il pas l'auteur de la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts pour qu'on s'exprime en français dans le royaume? Eh bien, ces gens vont faire des voyage hallucinant. Charles Quint, s'il veut aller de Valladolid, qui est alors la capitale, puisque c'est sous Philippe II que Madrid sera capitale du royaume d'Espagne, Charles Quint, premier roi d'Espagne, il ne faut pas l'oublier, s'il veut donc aller à Gand, pays de voir sa tante Marguerite d'Autriche, par exemple, s'il y va la mauvaise saison par mer, deux mois, trois mois, il peut y avoir de très mauvais vents. Son fils en fera l'expérience avec le drame de l'Escorial et les mauvais vents. Ce ne sont pas les Britanniques, les Anglais qui vont battre l'invincible Armada, c'est le vent qui est pire que tout. Ou alors il faut passer par ce que je disais, la Provence, l'Italie, les Alpes, etc., avec tous les inconvénients. J'ai calculé qu'il avait dormi d'entre 2500 et 3000 lits.
3200
lits. Ce qui est effrayant, il y en a qu'il a utilisé plusieurs fois, mais enfin bon, les puces ont dû être contentes de le retomber. Et c'est effrayant. Pour aller plus vite, il faut qu'il demande l'autorisation à son rival et beau-frère, François Ier, de passer par le royaume de France. Ce qui permettra d'ailleurs à Charles Quint d'être, par hasard, en plein mois de décembre, par un temps de grande froidure, comme on disait, d'être le premier visiteur ébloui du château de Chambord, qui n'était pas achevé. Et j'en profite pour vous rappeler que le Chambord que nous pouvons admirer aujourd'hui, ni François Ier, ni Charles Quint ne l'ont vu, car ils ne l'ont jamais vu terminer ce château unique au monde. Mais devant le fameux escalier double, où on se croise sans se rencontrer, qui pourrait avoir été l'œuvre de Léonard de Vinci, on ne le sait pas, le roi d'Espagne et l'empereur a dit « voici l'abrégé du génie humain ». D'ailleurs, il a demandé à sa sœur de voler les plans de Chambord pour faire la même chose à Bruxelles. Ça aurait eu un certain effet sur la Grand Place, mais il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'architecte, il n'a rien pu faire. Bon, ceci pour vous dire que cet empire des Habsbourg, qui devient plus tard des Habsbourg-Lorraine, 18e siècle, est absolument hallucinant pour l'Occident par sa diversité et par son étendue. Et ce sera un peu le même problème que rencontreront les souverains russes, que j'ai démontré dans la saga des Romanov, quand Alexandre II, Alexandre III voudra envoyer un oukase, un édit impérial à Vladivostok avant la construction du Transsibérien. Il faudra presque un an pour y aller. Entre-temps, le fonctionnaire, le destinataire sera peut-être mort. Je crois que c'est très très important, cette notion de géographie, avec tous les inconvénients et tous les charmes, parce que François Ier, évidemment, ne résiste pas à l'idée d'éblouir son beau-frère. Il lui fait donner une réception fantastique à Amboise. Il le reçoit aussi à Fontainebleau, donc pour l'épater et lui montrer que c'est un gentilhomme, alors que Charles Quint, qui est petit, qui est plutôt un taiseux, nous dirions, qui a des complexes, qui mange très mal, qui se tient très très mal, mais qui est un grand cerveau politique, est évidemment très différent.
Donc, ça a moyennement marché, d'ailleurs.
Voilà, ça a moyennement marché. N'ayez pas honte de regarder une carte pour savoir cet empire, jusqu'où il allait, c'est absolument hallucinant. Alors, du temps de Charles Quint, je résume, par un problème de succession, la famille va se diviser en deux, une branche autrichienne et une branche espagnole. La branche espagnole va régner à Madrid jusqu'à l'extinction des mâles, et c'est un petit-fils de Louis XIV, nous le savons, Philippe V, qui devient le roi d'Espagne, qui est l'ancêtre du roi actuel, Juan Carlos. Ce qui est intéressant, c'est que les Bourbons ont usurpé quelque chose qui appartient aux Habsbourg et qui appartenait au duc de Bourgogne, qui est la Toison d'Or. Vous avez entendu parler de la Toison d'Or. Eh bien, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, la Toison d'Or, il y a une exposition d'ailleurs en ce moment à Paris au musée de la Légion d'honneur, si vous avez l'occasion, je vous recommande d'y aller. La Toison d'Or est un ordre de chevalerie qui est le deuxième au monde après l'ordre de la Jarretière, créé par le roi Édouard III d'Angleterre pour calmer les commentaires peu aimables sur la comtesse de Salisbury, sa maîtresse qui avait perdu sa jarretière. Voilà, bon. On y soit qui mal y pense. La Toison d'Or est un peu plus digne, un peu moins salace. Et aujourd'hui, c'est très intéressant, la République française reconnaît les brevets des chevaliers de la Toison d'Or qui sont décernés par le roi d'Espagne parce qu'il est souverain régnant. Et le brevet le plus original qui a été envoyé par le roi Juan Carlos il y a une vingtaine d'années, ce sont des télégrammes à des cosmonautes américains, nouveaux conquistadors du ciel. Tandis qu'en Autriche, l'archiduc Otto de Habsbourg et maintenant son fils, l'archiduc Karl, chef de la maison d'Autriche, décerne une toison d'or que la République autrichienne reconnaît mais que la France ne reconnaît pas parce qu'il n'est pas souverain régnant. Les deux se sont partagés, c'est assez amusant, l'idée des deux branches de la maison de Habsbourg. Alors, vous avez une période très intéressante, c'est la période où l'archiduc Rodolphe va décider de transférer la capitale Vienne à Prague, avec ce grand château de Prague et cette école de Prague, entourée d'alchimistes, d'astronomes, de personnages bizarres, dont Archimboldo, qui, au lieu de faire son marché, va mettre des concombres, des carottes et des salades et en faire des tableaux étonnants.
Oui, mais des alchimistes brillants.
Des alchimistes brillants, des gens qui cueillent des rayons de lune pour en faire des poisons, enfin des gens étonnants. Ils ne s'intéressaient pas du tout à la politique, mais grâce à l'archiduc Rodolphe de Habsbourg, qui a une tête très caractéristique, Prague devient, je dirais, le deuxième angle du triangle d'or de l'Europe centrale qui sera et qui existe toujours, Vienne, Prague, Budapest. Ces trois villes étant exactement équidistantes, à peu près de 267 km. Alors, bon, nous avons des personnages considérables et nous avons une base qui concerne la France, qui est l'antagonisme fantastique entre la maison d'Autriche et la France, quels que soient ses régimes. Je crois pouvoir vous dire que l'Autriche a aimé davantage la France que l'inverse. La France s'en est toujours méfiée, mais rappelez-vous, François Ier se sent encerclé par les États des Habsbourg. Et Charles Quint lui dit « Mais quel domaine effrayant, je suis obligé de faire tout le tour du parc. » Donc en fait, c'est une source de mécontentement évidente. Mais ça, c'est très intéressant.
Ça aurait pu être pire.
Ça aurait pu être
pire. Parce que s'il s'était marié avec Anne de Bretagne...
Oui, ah ben, à ce moment-là...
Là, c'était le sandwich.
Il n'y avait plus l'échappatoire breton. Mais ce qui est important, on accuse les Habsbourg de tout... En France, parce qu'on n'est pas très très au courant, parce que ça ne s'arrange pas, mais il faut quand même savoir que jamais l'empereur du Saint-Empire n'a essayé d'être roi de France. En revanche, François Ier a essayé de voler la couronne du Saint-Empire et d'être empereur, et en achetant quelques voix avec un prix qui permet aux consciences d'avoir des absences de mémoire. Alors, ça, il faut le rappeler.
Même un des électeurs a voté six fois.
Oui, six fois, oui. Il avait la conscience à géométrie variable. Ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive aussi partout, voilà. Alors, voilà donc, si vous voulez, les données du problème. Et moi, ce qui m'amuse, c'est dans le fond ce problème de cohabitation géographique un peu forcé qui donne deux résultats formidables. Le premier est le mariage de l'archiduchesse Marie-Thérèse, la fille de Charles VI, qui n'ayant pas de fils, a décidé que c'est sa fille qui lui succéderait. Nous sommes dans les années 1730-1740, on n'a jamais vu ça. Le XVIIIe siècle sera un siècle en Europe extrêmement féminin, les tsarines de Russie, Catherine II, mais aussi de femmes remarquables en France, la Pompadour, etc., à des postes divers, mais non sans influence.
Enfin, Charles VI est quand même allé voir les différents autres pour la pragmatique sanction.
La pragmatique sanction, c'est-à-dire qu'il a fait jurer à tous les États européens, y compris à la France de Louis XV, qu'il reconnaîtrait sa fille comme étant la souveraine du Saint-Empire. Et ils se sont tous empressés de se parjurer. Alors va commencer une guerre contre la maison de Habsbourg, notamment en France, avec le cardinal Fleury, premier ministre de Louis XV. Et puis, il y a surtout le réveil d'une autre entité germanique au nord, les Hohenzollern, la Prusse. Alors, il faut dire que le grand adversaire de Marie-Thérèse, c'est le roi Frédéric II, qui a un amour très, très mesuré des femmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est comme on disait en Italie, il est masculino ma non fanatico, voilà, c'est ça. Et il va trouver que Marie-Thérèse est assez énorme. Il dira la même chose à Tsarine de Russie qui, lorsqu'elle mourra, la s'attirera ce commentaire posthume de Frédéric II, roi de Prusse, à Potsdam, roi soldat, dans le fond, qui continue ce qu'avait fait son père, c'est-à-dire la formation d'une armée permanente en Europe, il dira en bon français, Frédéric II, il a appris avec Voltaire, n'est-ce pas ? Il dira en bon français, je cite cette langue qu'on nous envie à l'époque, « la bête est crevée ». Voilà. On pourrait peut-être dire ça à quelques diplomates aujourd'hui qui ont une certaine liberté de langage, ça montrerait qu'il y a eu des précédents. Alors, en fait, Marie-Thérèse est une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle va rester féminine tout en ayant les qualités d'un homme.
Elle a eu son pouvoir 23 ans.
Hein. 23 ans. 23 Alors, ans. D'abord, elle est très féminine parce qu'elle va avoir 16 enfants, dont notre infortunée Marie-Antoinette. Bon, je sais bien, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas la télévision, d'accord. Elle avait un médecin qui lui a donné des trucs, ça a marché. En revanche, le médecin a échoué quand il a voulu lui demander de modérer ses appétits gastronomiques. Et il s'est installé, le docteur Van Etten, à côté d'elle, avec un seau en argent dans lequel il mettait exactement les mêmes quantités, les mêmes victuailles qu'elle ingurgitait pour lui montrer le cataclysme qu'allait se produire dans son estomac. Ça n'a eu aucun succès. Elle a pris de l'embonpoint. Et comme disait une de mes tantes en parlant de ce genre de femme, elle a de quoi s'asseoir. Bien. Marie-Thérèse est un grand cerveau politique qui a su que son mari n'était pas un grand politique, mais un économiste et un, je dirais, un homme de sciences sociales et de sciences naturelles, qui était l'empereur en titre, mais c'est elle l'impératrice, et elle arrive à cette chose formidable de faire crier « Vive notre roi Marie-Thérèse » à Prague, en Bohême, et à Budapest, oui, ce qui est un tour de force extraordinaire. Alors, elle sera obsédée par la Silésie, le sud de la Pologne, qui est une partie très riche, elle va tout perdre et se battre contre la Prusse. Alors, il faut bien avoir ça en tête, c'est que dans le Saint-Empire, là, à la fin du XVIIIe, se passe un événement considérable, c'est l'affrontement de deux entités germaniques, les Habsbourg et les Hohenzollern, ce qui va donner, d'ailleurs, au XIXe siècle, du temps de François-Joseph, la bataille de Sadowa, en 1866, et qui sera la raison pour laquelle l'Empire d'Autriche va se déplacer vers les Balkans, parce que sa voie est bloquée au nord. Mais avant cela...
C'est déjà le Drang nach Osten.
Voilà, exactement. Avant cela, l'empire des Habsbourg va se dégager, se trouver une voie vers l'ouest, et c'est ainsi que Marie-Antoinette est promise au dauphin, ce qui est un renversement d'alliance, puisque la France avait été très alliée avec la Prusse. Je ne vais pas vous refaire le destin de Marie-Antoinette, mais j'ai animé un colloque à la Sorbonne à la sortie du film de Sofia Coppola, parce que je trouvais qu'il y avait quand même quelques approximations historiques. Ah, c'est un très joli film, c'est le plus joli reportage qu'on ait fait sur Versailles et Marie-Antoinette. Mais les baskets de Marie-Antoinette, les macarons de la durée me semblaient un peu incongrus. Le bal dans l'Opéra de Paris qui ne date que de 1875 aussi, donc, et puis le fait qu'elle apparaisse toute nue à la frontière française me paraissait un peu excessif, donc j'ai voulu, avec des très grandes pointures, Jean-Christian Petit-Fils, Jean Tullard, Simone Berthier, Evelyne Levert, le jardinier chef de Versailles, etc., dresser un constat, et j'ai même fait applaudir la mémoire, si je puis dire, de Marie-Antoinette. Tout l'amphithéâtre de la Sorbonne s'est levé et observé une minute de silence. Alors, en quelques mots, bien sûr, Marie-Antoinette, Antonia, l'archiduchesse qui avait rencontré Mozart, qui avait glissé sur le parquet de Schönbrunn, était, comme disait Louis XVI, une tête avant, c'est-à-dire qu'elle était assez futile. Il y a une raison à ça. La cour d'Autriche, la cour des Habsbourg plus exactement, était très décontractée, très familiale. Il n'y avait pas le protocole de Versailles. Et à Versailles, qu'est-ce qui attendait Marie-Antoinette? Les favorites. On ne savait pas ce que c'était en Autriche. On avait une femme, on avait un mari, on n'avait pas de maîtresse, c'est une invention française, évidemment, on n'avait pas d'amant. Alors évidemment, elle a très mal joué, parce qu'elle s'est mise à dos les femmes qui comptaient, et si vous voulez bien réfléchir, ce sera le drame de Louis XVI. Louis XVI est le premier roi de France depuis quelque temps qui n'avait pas de maîtresse. Donc le seul fusible était la reine, qu'il a payé de sa vie, bien sûr, ses imprudences, et le fait qu'elle soit restée autrichienne, puisqu'elle était un pion sur l'échiquier autrichien. Je vous dirais que certaines recherches auxquelles je me livre en ce moment, avec des documents récents qu'on m'a transmis d'Autriche, montrent une hypothèse différente, à savoir que Louis XVI n'a pas consommé physiquement son mariage tout de suite, presque volontairement, voulant s'assurer que sa femme n'était pas tout à fait sous l'influence de sa mère et de l'ambassadeur Mercier Argenteau, et pensant qu'il avait besoin de consacrer, je dirais, beaucoup de ses pensées, de ses forces, à ce qui se passait dans les colonies américaines en révolte. Ça, c'est un aspect, à mon avis, à reprendre. Enfin, nous savons tous ce qu'il est advenu. L'image de Marie-Antoinette a changé, même si les Français, avec leur détestable xénophobie et ignorance, ont continué à dire l'Autrichienne, comme on dira l'Espagnol, pour Eugénie. Et là, nous arrivons à quelque chose d'étonnant. Ce qui m'amuse beaucoup, moi, c'est la suite avec Napoléon. Parce qu'alors là, comme jeu de quilles bousculé, ça se pose là. Nous avions Marie-Thérèse qui était devenue la femme du duc de Lorraine. Alors comme vous êtes des gens cultivés, je vais vous révéler un détail gastronomique tout de même. Le roi détrôné de Pologne, Stanislas Leszczynski, beau-père de Louis XV, qui ne s'entendait pas très bien avec lui, est arrivé avec son cuisinier. Et son cuisinier venait d'inventer un nouveau dessert, qui était un ordre du roi de Pologne qui venait de lire un livre. Quel livre ? Les mille et une nuits, quel dessert ? Le baba. Et il y a aujourd'hui, à Paris, dans le quartier des Halles, je ne ferai pas de publicité, une maison qui, depuis 1730, arrivée avec la cour du roi de Pologne, continue de faire le baba ou le Ali Baba. Et si vous commandez, je peux vous dire que c'est bien servi. Alors, en échange, la Lorraine est devenue française. C'était tout de même une bonne affaire. Donc, rappelez-vous, vous avez une archiduchesse d'Habsbourg qui s'appelle Marie-Louise, qui est la fille du dernier empereur du Saint-Empire, François II, et qui sera le premier empereur d'Autriche, François Ier. Voilà une jeune fille.
Change de nom.
Comment ?
Il change de nom.
Il change de nom. Et voilà une jeune fille à qui on va dire toute sa jeunesse, qu'il y a un homme épouvantable en France, l'ogre corse, l'usurpateur, l'héritier des assassins de sa grand-tante Marie-Antoinette, qui va l'épouser, et on la fourre dans le lit de ce personnage peu recommandable. Il y a de quoi la traumatiser. Alors, on sait que Napoléon, qui n'avait pas pu avoir de descendance légitime, en était très vexé. Il avait été victime d'un attentat à Ratisbonne. Il n'était pas éternel. Donc il dit d'une façon élégante, toujours en bon français, je vous le rappelle, « Et maintenant, ils me font un ventre. » Parce que celui de Joséphine restait un cimetière d'après lui. Alors il a d'abord demandé au tsar de Russie, Alexandre, qui sera son adversaire, si une de ses deux sœurs, une grande duchesse de Russie, ne ferait pas l'affaire. Le tsar de Russie, Alexandre, a réfléchi, a dit « Je veux bien Napoléon comme adversaire, mais pas comme beau-frère. » Donc, non. Il va donc se rabattre, si j'ose m'exprimer ainsi, sur Marie-Louise, qui va être sacrifiée à la raison d'État par les calculs de Talleyrand, de Metternich. Et en fait, ce que l'histoire montre, c'est que c'est un piège dans lequel, en quelque sorte, Napoléon va tomber. Il va se précipiter, parce qu'il a besoin de reconnaissance sociale, il est empereur, il faut qu'il épouse une fille ayant du sang bleu. Elle se sacrifie. En 1810, c'est le maréchal Berthier qui réalise ce mariage par procuration à Vienne, dans l'église des Augustins, la paroisse de la cour. Et Marie-Louise arrive à Compiègne. Napoléon est tellement pressé, il a toujours été pressé, il mange d'une façon pressée, d'après les courtisanes, il fait l'amour d'une façon pressée, il mène ses batailles d'une façon pressée, bref, il se précipite sur la pauvre Marie-Louise, les réceptions et les étapes intermédiaires ont été supprimées, à tel point que Marie-Louise ne verra pas que le lit dans lequel elle a été consommée portait encore le monogramme de Joséphine, on n'avait pas eu le temps de... tour tiré à Compiègne, on ne pouvait pas suivre. Bon. Et le lendemain matin, Napoléon dit à son état-major, « Mon cher, mes chers, si vous voulez épouser une femme formidable, épousez une Allemande. Ce sont les meilleurs. » C'est intéressant, l'obsession de Napoléon de détruire le Saint-Empire romain germanique, qui n'existait plus, et de réunir sous le terme « allemand » tous les gens qui, à l'est du Rhin, évidemment, c'était assez pratique. Mais, il n'avait pas réalisé que c'était un piège et qu'en fait, cette nouvelle Iphigénie sacrifiée était un pion politique formidablement avancé. Certes, elle lui donne un enfant, le futur roi de Rome, que nous appellerons l'Aiglon et que les Autrichiens appelleront le duc de Reichstadt. Voilà, le fils unique légitime, Napoléon II, dans le fond. Et Marie-Louise aura un seul grand honneur, que n'a pas eu Joséphine. Bon, alors, Joséphine était... une créole ravissante, sensuelle, très experte en amour. Il n'y a qu'à voir ce qu'écrit Barras, le révolutionnaire, de ses talents. Ce n'est pas tout à fait le style de Marie-Louise. Je n'y étais pas. Enfin, ce n'est pas le même genre. Et Marie-Louise sera quand même fière de, porter, de donner son prénom au conscrit de 1813, quand c'est le commencement de la fin après la campagne de Russie. Elle ne viendra pas voir l'empereur en exil, et ensuite elle va vivre sa vie d'une façon assez cocasse et romanesque avec un aide-de-camp de l'empereur qui la mettra à l'abri un soir d'orage, pas de l'amour, mais de la pluie. Bien. Plusieurs mystères historiques que j'évoque dans ce livre sur l'ascendance de l'Aiglon, sur l'ascendance de François-Joseph et de son frère, surtout Maximilien, je vous renvoie à ça, font que nous avons des liens assez étonnants avec la maison d'Autriche. Mais je voudrais vous dire tout de suite quelque chose à propos du fils de Napoléon. Parce que vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques années, le Parlement autrichien, les élections autrichiennes avaient donné un coup de balancier à droite. Immédiatement, les bonnes consciences françaises, qui donnent des leçons à tout le monde, bien sûr, même quand on ne les a pas demandées, ont voulu voler au secours de la démocratie, se croyant au moment de l'Anschluss en 1938. Parmi ces grands donneurs de leçons qui nous éclairent de leurs réflexions, un philosophe à chemise blanche qui n'a pas les moyens d'avoir une cravate s'est précipité à Vienne, est arrivé dans la crypte des Capucins et a écrit dans le journal de Monde, que j'ai gardé comme document, sur quatre colonnes, qu'il s'était incliné devant les restes de l'Aiglon, le duc de Reichstadt. Ça m'a troublé parce que je me disais, comment est-ce que ce philosophe n'a jamais entendu parler d'Hitler ? Ça me paraît peu probable. Il ne sait pas que le 15 décembre 1940, Hitler a fait rapatrier les cendres de l'Aiglon exactement 100 ans après que le roi Louis-Philippe eut l'élégance et l'intelligence, au nom de tous les Français rassemblés, de faire revenir les restes de Napoléon de Sainte-Hélène. Il faisait très froid le 15 décembre 1840, il faisait très froid le 15 décembre 1940, si froid que dans cet hiver lamentable de déblacle et d'occupation, les Parisiens ont eu un mot en disant « Nous avons froid, nous avons besoin de charbon et on nous envoie des cendres ». C'était l'ambassadeur Otto Abetz du Reich qui avait voulu amadouer les Parisiens. Enfin, il ne faut pas trop en vouloir à ce philosophe. Ensuite, non, il n'est pas historien, il n'est que philosophe, donc il ne sait pas ce qu'il dit. Ensuite, ce qui est très important, c'est que cet enfant va être élevé en allemand. et qu'il va rencontrer la mère de François-Joseph, la mère de Maximilien, qui aura peut-être, peut-être pour lui des bontés extramaternelles. C'est une hypothèse qui n'est pas du tout exclue. Je vous renvoie à ce livre, ce qui fait que nous pourrions avoir du sang Bonaparte mélangé au Azur. On en avait évidemment avec l'Aiglon, mais c'est tout de même étonnant. Donc, vous avez cette Europe du 19e siècle qui devient l'Europe Biedermeier, et les Habsbourg se contentent, si je puis dire, de leur territoire en allant vers l'Est, vers les Balkans, petit à petit. C'est Schubert, ce sont les académies, c'est le chocolat, c'est le confort, c'est la fin de Beethoven, et puis bientôt, dans l'esprit du Congrès de Vienne, la valse s'est définitivement imposée. C'est tout de même les Habsbourg qui ont imposé cette danse révolutionnaire où un homme prend une femme par la taille. Jusque-là, on ne se rencontrait pas. Et c'est très intéressant. Et puis, on arrive à 1848, où le printemps des peuples est à l'ordre du jour. Les Français ont, comme d'habitude, allumé la mèche. C'est la pagaille en Europe, sauf en Russie et en Grande-Bretagne. Et le trône des Habsbourg est vacillant. Et François-Joseph, jeune empereur né en 1830, dira en 1848 adieu ma jeunesse. Il n'a jamais eu de jeunesse. Et il sera...
C'est le règne le plus long.
C'est le règne le plus long, 68 ans. C'est un règne comparable par sa longueur à la reine Victoria Louis XIV. Maintenant, la reine Elisabeth II est en train peut-être de battre le record. Et François-Joseph est un homme très bien, digne. Ce n'est pas un génie, mais c'est un homme bien qui a régné sans doute trop longuement. Commencer en 1848, finir en 1916, dans cet hiver de Première Guerre mondiale, il aura eu la grâce de ne pas voir l'effondrement de son empire. J'aime beaucoup François-Joseph, je lui ai consacré une biographie indirecte en parlant de Sissi, et je vais y revenir cet été à la demande de Stéphane Bern par une nouvelle série de Secrets d'Histoire sur France 2 que nous préparons actuellement. Et aussi, pour ceux qui n'auraient pas compris ou qui se seraient déjà endormis maintenant, je vous rappelle que lundi prochain, le 28, je serai l'invité de Franck Ferrand en direct sur Europe 1 de 13h30 à 14h30 pour sa nouvelle émission qui s'appelle « Au cœur de l'histoire ». Alors, Sissi, la cousine charmante. J'ai beaucoup, je vous dirais tout de suite que j'ai beaucoup d'amour pour les films de Sissi. Qu'ils ne sont pas du tout stupides, ils sont faits par un Autrichien, Ernst Parischka. Mais peut-être n'avez-vous pas réalisé que lorsqu'il nous arrive, en 1955, il s'est passé quelque chose d'inouï. L'Europe accepte à nouveau l'État autrichien. Par le traité du Belvédère, et comme me l'a dit un libraire quand j'avais commencé mes recherches et que j'étais jeune journaliste à Paris Match, vous savez, monsieur Descartes, nous n'avons pas été libérés en 1945, mais en 1955, quand les chars soviétiques sont partis, les Français aussi, les Britanniques et les Américains, en effet. Et ceci nous amène à un personnage considérable qui vit toujours, que j'ai l'honneur de connaître, qui est son Altesse impériale et royale, l'archiduc Otto de Habsbourg, qui est dans sa 99e année. Alors, sur les photos du livre, vous le verrez, il est né en 1912, il est en petit prince royal hongrois, avec un plumet aux obsèques de François-Joseph. Si vous prenez toutes les dynasties qui se sont effondrées, qui ont été laminées en 1918-1919, à commencer par les Hohenzollern, les Romanov avec la Révolution russe, etc. Les Habsbourg, par le miracle d'un seul homme, ont pu redonner un lustre à leur nom alors que plus personne ne voulait en entendre parler et que les pires révolutionnaires d'Europe centrale comme Benesch et Masaryk disaient plutôt Hitler que les Habsbourg, plutôt l'Anschluss. Le jeune archiduc Otto, fils aîné du dernier empereur et roi de Hongrie, était dans un dénuement épouvantable après la mort de son père à Madère le 1er avril 1922. Il était auprès de sa mère, l'impératrice Zita, qui m'a fait le grand honneur de me recevoir à Vienne le 10 novembre 1982, une interview exclusive et mondiale. Après 63 ans d'exil, elle revenait en Autriche. Vous verrez ma photo, vous la reconnaîtrez elle. Moi, j'ai un peu changé, j'ai l'air d'être mon fils aujourd'hui, mais ne le dites pas, parce que ce n'est pas gentil. Bien. L'archiduc Otto était si pauvre que certains jours en Espagne, il ne sortait pas. Ça durait 3 jours parce que le cordonnier du village rassemblait son unique paire de chaussures. Or, cet homme qui est le descendant direct de Charles Quint, de Marie-Thérèse, de Philippe II, de François-Joseph, enfin, c'est impressionnant. s'il y a un Européen, c'est lui, ne s'est pas contenté d'être l'héritier. L'héritier qui ne règne pas. Il a été le visionnaire. Et c'est ça qui est fascinant. Il a été l'un des premiers à lire Mein Kampf et à dire « Hitler va vouloir la guerre parce que le traité de Versailles est un désastre ». Et c'est vrai, mesdames, messieurs, la catastrophe majeure du XXe siècle qui a engendré toutes les autres et dont nous payons toujours les conséquences, à commencer par le problème des Roms entre la Hongrie et la Roumanie, dont personne ne sait quoi faire, malgré les milliards que vous avez été généreusement appelés à fournir, ça date de là. En effet, le diktat de Versailles, comme le dira Hitler, il faut bien le dire, a commis plusieurs fautes. La première, c'est de ne pas inviter l'Allemagne à la table des négociations. La deuxième, c'est que l'armistice de 1918 a surpris les Allemands qui n'avaient pas vu un soldat français, américain, belge ou britannique sur le sol allemand. Ils n'ont pas compris. Ensuite, les conditions économiques, l'Allemagne paiera, étaient effrayantes. Hitler avait, si je puis dire, un boulevard devant lui. Personne, notamment en France, ne l'a compris. Les Anglais ont compris assez rapidement en écrivant que Clémenceau allait devenir le père de la victoire PERD. Ce qui est assez joli, car chacun sait que s'il est facile de gagner une guerre, gagner la paix est beaucoup plus difficile. Ce qui est très intéressant, c'est que l'archiduc Otto a compris tout de suite. Donc, il l'a dit, Churchill et George Mandel en France l'ont écouté, personne d'autre. Il va avoir deux fois une vision fantastique. Alors, avant d'aller à la seconde, je voudrais vous dire un mot très joli de Lady Astor, grande personnalité britannique, qui reçut lors d'un grand dîner à Buckingham Palace en 1930, début 30, alors que Hitler va effectivement prendre le pouvoir et a déjà un succès populaire fantastique. Quelqu'un dit à Lady Astor, mais enfin, cet Hitler, c'est incroyable, il ne parle que de l'Allemagne, il est né en Autriche. Je ne comprends pas, il doit y avoir une erreur. Vous savez, vous, Lady Astor, où il est né? Et elle a répondu d'une façon fantastique, Hitler, il est né à Versailles. Ce qui est un très joli mot que personne n'a compris à l'époque. Je résume, l'archiduc Otto a refusé, il me l'a dit, c'est le seul homme avec qui je n'ai jamais voulu avoir un instant de conversation, c'est Hitler, alors que les Hohenzollern l'ont accepté, mais c'est très compliqué comme situation. Hitler est furieux, il envoie un commando pour arrêter l'archiduc, il s'enfuit aux États-Unis, et par vengeance, Hitler donne à l'Anschluss l'annexion de l'Autriche en mars 1938, le nom de code Otto. Opération Otto. La guerre... Il est aux États-Unis, l'archiduc. Il essaye de faire comprendre aux Américains de ne pas commettre les erreurs qu'ils ont commises en 1919, ne connaissant pas l'Europe et n'y voyant que des débouchés pour leur marché économique et industriel. Et là, il se passe quelque chose qui est peu connu. Il a l'information selon laquelle Staline, qui est un allié, qu'il faut donc ménager, veut mettre la main sur l'Autriche, et en particulier sur Vienne. L'archiduc s'en aperçoit, avertit le président Roosevelt qui est mourant. Et Roosevelt lui dit, je ne peux rien faire, il faut voir Churchill. Alors pour voir Churchill, à cette époque, ce n'était pas facile. Il prenait deux bains par jour, comme Agatha Christie, et il y trouvait ses idées, et il y prenait volontiers son petit déjeuner, composé d'un magnum de Bordeaux et de deux Havanes. Léger, léger. Ça éclaircit le cerveau. Et là, il a été absolument génial, Churchill. Ayant compris la situation en une seconde, que Staline allait faire semblant de diviser l'Autriche en deux zones, dont une soi-disant libre, l'autre soviétisée, eh bien il a dit, Churchill, les intérêts supérieurs britanniques doivent protéger la route de l'Empire des Indes. Je décide que la route des Indes passe par Vienne. Il fallait quand même du culot pour y arriver. Enfin, vous me direz qu'il fallait aussi beaucoup de culot à Churchill pour dire, je vous dis ça en passant, le général de Gaulle s'était mis en uniforme un petit peu léger, et on est au début de 41, on sait que les deux hommes s'estimaient mais ne s'aimaient pas, et Churchill a passé la nuit dans son war cabinet qu'on peut visiter aujourd'hui, et le Havane et le Bordeaux ont fait des ravages, mais ça fait rien, le prime minister est très très en forme. Et de Gaulle voit arriver Churchill qui porte encore sa veste de premier lord naval quand il était ministre de la Marine et un pantalon improbable. Et se risque à lui dire, monsieur le Premier ministre, votre uniforme n'est pas réglementaire. Et Churchill le regarde et de sa voix nasillarde dit, mais tout le monde ne peut pas se déguiser comme vous en soldat inconnu. Alors Churchill va être génial, c'est comme ça que l'Autriche sera divisée en quatre zones, et je vous renvoie au fameux film de Carol Reed, Le Troisième Homme, et à la musique lancinante d'Anton Karas. L'archiduc Otto, au moment où l'Autriche retrouve son identité sous couvert de neutralité, m'a raconté une histoire étonnante. Il me dit, vous savez, je vivais en faisant des conférences, il faisait aussi des éditoriaux remarquables sur l'avenir de l'Europe dans l'Est républicain. Je les ai tous lus, il annonce tout ce qui se passe en Europe. Eh bien, il me dit, j'étais dans l'avion qui me conduisait à Madrid, j'allais faire une conférence en espagnol sur mon ancêtre Charles Quint. Et à l'arrivée à l'aérodrome de Madrid, il y a une agitation à l'avant de l'appareil, 50 journalistes avec les moyens médiatiques de l'époque. Je demande qui c'est, le doyen de la faculté de Madrid me dit, je ne sais pas, il se renseigne. Ah, c'est Romy Schneider qui vient présenter Sissi en espagnol. Le descendant de la vraie Sissi était dans l'avion, personne ne le savait, et il n'y avait pas un photographe pour lui. Alors cet homme, l'archiduc Otto, est un homme extraordinaire qui a un humour fantastique. Vous avez devant vous donc un descendant de 7 siècles d'histoire, de destin européen, qui a conseillé aussi bien les Américains, les Anglais, que le chancelier Kohl, que le président Mitterrand, qui doit demander de lui expliquer la guerre en Yougoslavie, et l'archiduc Otto, à qui M. Mitterrand avait envoyé très justement un avion, une voiture, etc. Il dit, Monseigneur, expliquez-moi, je suis très étonné. Monsieur le président de la République, je suis étonné de votre étonnement, ça devait arriver depuis 1918. Exact. Les États artificiels qui ont explosé, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, tout ça... Le père d'Otto, l'empereur Charles, l'avait vu et Otto l'avait dénoncé. Et cet homme, avec son humour, je vous en donne un exemple. Nous sommes dans les années 70, il est parlementaire européen, il se présente sous l'étiquette modeste de docteur Habsbourg. Il est président d'un mouvement européen très important et il reçoit une demande de Mme Simone Veil, présidente du Parlement européen, qui dit « Monseigneur, mes chers collègues, le personnel du Parlement européen nous demande si... Demain, nous ferions arrêter nos travaux à 18h au lieu de 19h, mais certainement, pour quelle raison? Mais parce qu'il y a la retransmission à la télévision d'un match de football. Alors Otto de Habsbourg dit, mais bien sûr, Madame la Présidente, qui sont les équipes en place? Et Madame Veil, imprudemment, dit, Autriche-Hongrie, Monseigneur. Ah oui, contre qui? Petit rappel, petite piqûre de rappel historique. Alors voilà, en gros, si vous voulez, ce livre, pour terminer, est aussi un cri de protestation que je lance. Je suis effaré par l'absence de culture et de mémoire de l'Europe actuelle. La dernière avanie, c'est ce calendrier européen qui ignore les fêtes chrétiennes. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de tradition. C'est ce que j'ai dit à France Inter l'autre jour, on me dit « mais on n'a plus besoin de la religion ». Je dis « alors très bien, il ne faut pas mettre les fêtes musulmanes et les fêtes juives. Il faut qu'il n'y en ait aucune ». Deuxièmement, vous avez vu les billets d'euros? Ils sont sinistres, mais c'est surtout du lavage de cerveau. Vous n'avez pas un personnage de l'histoire européenne, vous n'avez pas un monument de l'histoire européenne, tout est stylisé. Vous n'avez ni Marie Curie, ni Cervantes, ni Charles Quint, ni Molière. On avait Molière, on avait Pascal. Bon, il valait 500 francs, leur génie valait plus, c'est évident. Mais enfin, au moins, on apprenait quelque chose. Vous n'avez rien. Les monuments sont stylisés, c'est un faux pont du Gard, d'une fausse cathédrale, une fausse synagogue, un faux temple. Qu'est-ce que c'est que cette Europe qui refuse sa mémoire? Et permettez-moi, j'étais à l'Élysée hier, je m'en suis étonné auprès du président de la République, qui est très frappé aussi. Je lui dis, est-ce que nous sommes condamnés à ne plus avoir de mémoire de passé pour mieux être abrutis et sombrer dans la pire des dictatures? Et je vous pose la question. Alors, mesdames, messieurs, ce récit que j'ai fait dans ce livre, c'était celui d'un temps où l'Europe avait du génie, du panache, du courage, des traditions qu'elle ajoutait, qu'elle ne retranchait pas. Elle avait aussi une âme. Merci de votre attention.